Blanche Paye.
Bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fall right in this generation triumphantly.
De la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Mel Emmanuel.
18h, lors de la dernière édition du journal sur Radio de la Paix, soyez les bienvenus. Le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, salue les progrès de la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus depuis hier avec un taux de réussite nationale de 34,17%. Vous aurez en deuxième partie du journal les réactions des enseignants et des parents d'élèves. Et hors de nos frontières, 69 membres du groupe terroriste Boko Haram se sont rendus à la force multinationale mixte FMM au Cameroun et au Niger, selon un communiqué. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal démarre avec l'audience accordée ce mardi à Abidjan par le vice-président de la République, Tiémoko Meylié Koné, au vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, séjournant en Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets étaient au menu de cette audience, entre autres la fourniture de l'électricité à certains pays voisins, le développement de la riziculture pour une autosuffisance en riz. Il est également revenu sur l'indice de développement humain, IDH. Il est au micro de Jean-Mélène Bitté.
Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, de retomber de ces investissements pour permettre aux autres pays dans son voisinage immédiat d'avoir aussi accès à ces produits essentiels qui d'ailleurs est considéré par le président de la Banque mondiale comme un droit humain. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour leur population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'ANACAR, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Si la même chose peut être faite dans un secteur comme celui du riz. On a fait une table ronde avec toutes les parties prenantes pour voir comment booster la production dans la filière du riz, accroître la productivité, en faire non seulement un secteur au niveau duquel la Côte d'Ivoire pourra atteindre son objectif de sécurité alimentaire et contribuer également à la sécurité alimentaire au niveau des pays de l'Afrique occidentale et dans la zone du Sahel. Pour ce qui concerne le développement humain, là aussi, en termes d'accès, nous l'avons dit avec le vice-président, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Hier lundi, un atelier a été organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en vue de l'adoption d'une loi visant à assurer la protection des lanceurs d'alerte afin de faire correspondre le processus de protection actuel aux recommandations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Au cours de cet atelier, le terme lanceur d'alerte a été clairement défini. On en sait plus avec Christelle Yesso.
Sur le cadre de cet atelier, Yao Daniel, membre du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, nous situe.
C'est une initiative en vue de susciter les mesures citoyennes pour que les individus puissent dénoncer tout ce qui va dans ce sens.
Kodjo Atiso, coordonnateur régional de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, précise qui peut être considéré comme lanceur d'alerte.
Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de son travail, est des irrégularités ou des cas de corruption et qui fait des signalements aux autorités compétentes. Vous avez les membres des ONG ou de la société civile, des gens qui ne sont pas dans l'administration mais qui arrivent aussi déjà fait des signalements.
Les journalistes, en tant que diffuseurs d'informations, étaient aussi représentés à cet atelier. Seriba Koné, président des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire.
Quand on parle d'alerte, on parle de nous aussi. Parce que quand on finit une enquête, par exemple, avant de balancer l'enquête, vous faites une alerte. La dénonciation, bon, sont des choses qu'on fait nous-mêmes en tant que journalistes. Donc, l'un dans l'autre, on est véritablement impliqués dans cette loi.
Cet atelier se veut être un cadre d'échange, de renforcement du processus de protection des dénonciateurs en Côte d'Ivoire.
Il faut reconnaître que la loi qui porte sur les dénonciateurs, les témoins et autres, constitue un cadre, mais elle n'est pas suffisante pour prendre en compte la protection des lanceurs d'alerte telle qu'envisagée par la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Les résultats de cet atelier seront transmis au gouvernement en vue d'une protection accrue des lanceurs d'alerte.
On s'intéresse aux enfants dans ce journal. En ce qui concerne le dialogue des enfants et adolescents avec les décideurs au niveau local et national, il est jugé insuffisant. C'est entre autres ce qui ressort de l'atelier de présentation des résultats de l'évaluation de la participation des enfants dans les instances de prise de décision tenue le jeudi dernier à Abidjan. La substance de cette rencontre, initiée par la plateforme nationale des organisations et associations des enfants de Côte d'Ivoire avec Sonia Nzian.
Le fait que les adultes voient les enfants comme des personnes limitées qui n'ont pas un esprit assez ouvert constitue un défi pour les enfants.
Propos de Denis Marc-Eliel, coordonnateur de la plateforme nationale des organisations et associations d'enfants de Côte d'Ivoire. Il estime qu'il faudrait soutenir leur capacité à impacter le pays.
On veut que les enfants soient intégrés dans le processus de prise de décision parce qu'ils ont leur mot à dire sur les différentes questions qui les concernent. On félicite l'État de Côte d'Ivoire parce que dans ces différents programmes, ils essaient tant bien que mal d'intégrer les enfants pour permettre leur participation. Mais il faudra que cette participation soit effective.
Le sénateur Michel Benoît Kofi dit être prêt à soutenir les enfants dans leur quête, mais se veut réaliste.
L'enfant, même si il a besoin d'apprendre, mais il a aussi surtout besoin qu'on tienne compte de son point de vue. Mais le dernier mot doit revenir à l'adulte pour mieux l'orienter pour son intégration plus tard dans la vie active.
Représentant le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Traoré Bintou a rassuré sur la volonté de son département quant à l'implication effective des enfants dans les prises de décision.
Très bientôt, il y a la conférence mondiale ministérielle de lutte contre la violence à l'égard des enfants au Mexique. Mais déjà, en Côte d'Ivoire ici, ils auront leur mot à dire. Et c'est ce qu'ils diront comme différentes préoccupations que les autorités vont travailler pour sortir la déclaration que Madame le ministre sera amenée à faire à cette conférence.
Selon les statistiques, enfants et adolescents constituent plus de 50% de la population ivoirienne.
Partons à Bouna dans le nord-est de la Côte d'Ivoire où un guide de référence d'alerte, de prévention et de gestion des conflits communautaires intégrant la dimension droits humains et genre a été élaboré la semaine dernière lors d'une rencontre régionale à la préfecture. Cet atelier de réflexion a été initié par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de la région du Bounkani en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Jérôme Kouassi.
Ce guide de référence spécifique à la région inclut les modes traditionnels de maintien et de renforcement de la cohésion communautaire, explique le directeur de la prévention et de la gestion des conflits au ministère de la Cohésion nationale, le professeur Bamba Aboulaye.
En mettant l'accent sur les mécanismes endogènes qu'on retrouve dans les traditions à Bouna, qui permettent d'anticiper les conflits et en cas de survenance, qui permettent de circonscrire, de les régler et de créer donc les conditions d'une cohésion sociale paisible pour toute la population vivant dans le Bounkani.
Le processus intègre la participation des femmes, ce qu'estime normal Dame Kambire Wila pour celles qui payent le lourd tribut lors des crises.
Le rôle de la femme est très important quand il y a des conflits. Elle souffre. Et puis quand son enfant s'en va dans ces situations, qu'il meure ou qu'il est blessé, c'est encore la femme qui souffre.
Les jeunes doivent prendre conscience et prendre leur place accordée dans le processus d'alerte, de prévention et de gestion des conflits, lance comme appel aux jeunes, le président de l'Union de la Jeunesse, Kamara Lagisseidou.
Nous jeunes, il faut que nous nous mettions au travail, nous nous prenions au sérieux, pouvoir relever le défi, participer, anticiper, utiliser les moyens, les voies à suivre pour le règlement des conflits.
Ces activités se sont déroulées successivement dans les régions du Gon, du Kavali, des Grands Lacs, des Bekin et du Bounkani et vont s'étendre sur l'ensemble des régions du pays selon les organisateurs. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Quittons le nord-est pour le centre du pays. Les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire sont reconnaissants au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de leur filière. À cet effet, ils ont organisé samedi dernier à Yamoussoukro une journée pour lui rendre hommage et lui dire merci. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
Conscients des sacrifices consentis et de la dynamique imposée dans leur filière par le chef de l'État Alassane Ouattara, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire se sont fortement mobilisés à Yamoussoukro pour lui exprimer leur reconnaissance et soutien. Leur porte-parole, Obed Blondois.
Ce grand rassemblement se veut l'expression d'un hommage mérité au président de la République pour le développement et la promotion du bien-être des populations ivoiriennes en général et des producteurs de café cacao en particulier.
Le directeur général du Conseil Café Cacao, Koné Brahima Yves, est revenu sur les réformes et actions opérées dans la filière sous l'égide du chef de l'État, légitimant l'opportunité de cette rencontre.
La mise en œuvre de la réforme de la filière, la fixation des meilleurs prix aux producteurs, l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana et l'instauration du différentiel du revenu décent, la carte du producteur. Après tant d'initiatives et de résultats obtenus, je comprends bien qu'il était donc légitime d'exprimer notre gratitude.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'ensemble des producteurs ivoiriens, fierté nationale.
Vous, les planteurs de café et de cacao, ainsi que tous les autres grands planteurs, vous êtes notre fierté. Le travail que vous faites procure à la Côte d'Ivoire d'être champion du monde en matière de cacao.
Les producteurs de café cacao, à en croire leur porte-parole, ont payé au trésor ivoirien la somme de 50 millions de francs CFA représentant la caution du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2025. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
À présent, un chapitre éducation nationale dans ce journal. Depuis hier, les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus. À Daloa, ils sont légèrement en baisse cette année par rapport au taux de réussite estimé à 19,75% l'année dernière, ce qui est par conséquent inférieur au taux national. De leur côté, les candidats admis réfléchissent à leur orientation. Jean-Noël Kwame.
Dans les centres où nous nous sommes rendus, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des présidents de jury que nous avons rencontrés.
Gondi Patrice, vice-président du centre Khalil. Nous avions 750 candidats. En série D, 102 admis, un taux de 22,81%. En série A, 280 inscrits, admis 10, un taux de 4,40%.
Mamadou Fofana, vice-président du centre du Collège Espérance d'Aloa. On avait 700 candidats, les admis série A2, 52 sur 256, ce qui fait 20,31%. En série D, 446 candidats, 51 admis, 11,43%. Sur les 700 candidats du centre, 13,73% d'admis. On n'est pas très satisfait, il ne faut pas désespérer.
Dans une ambiance un peu morose, quelques candidats admis évoquent leur projet après le baccalauréat.
Je suis très fier d'avoir le bac D. Ça fait la troisième année que je compte aller à l'université faire physique chimie.
J'ai eu le bac D. Si je vais à l'université, j'aimerais faire la science économie et gestion. Si ce n'est pas possible, je vais passer un concours.
J'ai fait la terminale D, ça n'a pas marché. J'ai fait la série A2 et j'ai validé. Après le bac, pour l'instant, je n'ai aucune D.
J'ai eu le bac D. Je compte aller à l'université pour être ingénieur en bâtiment.
Les statistiques générales provisoires de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa indiquent un taux de réussite de 19,33% d'admis au baccalauréat 2023-2024. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Toujours en rapport avec le baccalauréat, le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECI, déplore le taux national de réussite qui est de 34,17%. Il soutient que seule l'application rigoureuse des états généraux de l'école peut lui faire avoir de meilleurs résultats. Claude Kadjouaka est joint par Francis Cassi.
Bon, le taux 34,7%, ça veut dire que nous sommes très loin de la moyenne. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas réduisant ce résultat-là que nous avons. Je pense que les états généraux de l'éducation ont été organisés, hein. Toute la Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour ces états généraux de l'éducation. Nous savons ce qui mine le système. Désormais, nous devons pouvoir chercher la thérapie pour redresser le système éducatif ivoirien. Et donc, il faut qu'on applique les états généraux de l'éducation dans sa globalité. Si on l'applique, ça va nous aider. Parents d'élèves, décideurs, enseignants et tout le monde, nous devons nous mobiliser, toute la population doit pouvoir se mobiliser autour de son école comme un seul homme. C'est pour ça que nous, au niveau de notre organisation, nous sommes en train de nous redéployer, mettre des sections un peu partout pour que nous puissions rapprocher notre organisation des parents pour que les sensibilisations qu'on fait là soient relayées régulièrement pour que la machine du système éducatif soit vraiment huilée pour des résultats favorables que nous avons. Au moins la moyenne, au moins 10 sur 20.
Propos du président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPC, Claude Kadioaka. Et après les parents d'élèves, ce sont les enseignants qui réagissent au taux de réussite nationale au baccalauréat. À la différence de l'OPC, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SINEPSI, par la voix de son secrétaire général national, salue ce taux de 34,17%. Il salue également l'amélioration des différents taux d'examen de cette année, du CEP au bac en passant par le BEPC. Écoutons le secrétaire général national du SINEPSI, Andjou Andjou.
Je voudrais très sincèrement féliciter tous les enseignants de Côte d'Ivoire parce que cette année a été une année bien tenue, du primaire au secondaire. Il y a eu le calme, il y a eu la paix, comme quoi quand nous signons une trêve sociale, comme quoi quand gouvernement et enseignants s'entendent, nous avons de bons résultats. Je demande au gouvernement de continuer sur cette lancée parce que nous avons quelques petits points encore en suspens. Il faudrait que nous puissions nous accorder pour que l'année prochaine soit meilleure. Cette année, c'est bon. Félicitations aux élèves qui ont compris que seulement le travail paye. La tricherie ne mène nulle part. Ils ont travaillé, je voudrais les féliciter. Il y a eu plus de filles que de garçons au niveau du bac, mais aussi au niveau du primaire, les enfants ont travaillé. Vraiment, je voudrais féliciter les enfants. Féliciter aussi les parents d'élèves qui ont compris que l'accompagnement est important. L'école n'est pas une garderie. Il faut être en contact avec les enseignants. Et donc, féliciter toute la chaîne, sans oublier le ministre Maria Toukoné, qui fait du dialogue social un point important de sa gouvernance.
Donc, pour vous, 34,17% d'admis au baccalauréat, c'est bon?
Oui, c'est bon par rapport à l'année passée. Il y a eu 2 points de plus. Nous avançons. Nous savons d'où nous venons.
Le secrétaire général national du SINEPSI, Andjou Andjou, interrogé à l'instant par Soro Adams. Crise dans le royaume baoulé au centre de la Côte d'Ivoire. Accusé d'avoir pris parti dans la crise de succession qui sévit, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT, a, dans une déclaration faite le dimanche à son siège à Yamoussoukro, fait connaître sa position. Un extrait de cette déclaration lue par Sa Majesté Nanan Amantanou et Paul Désiré, président de cette institution au micro d'Émile Yao.
Certaines personnes accusent à tort la CNRCT d'être à l'origine de leur déconvenue pour avoir, disent-elles, reconnu comme reine des Baoulés, celle qu'elles appellent la reine mère Akwaboli II. Or, nous savons tous que dans tout le royaume Akan, ce sont la cour royale et les instances dédiées et personne d'autre qui, selon les us et coutumes du royaume concerné, organise les successions au trône royal sacré et gère les questions y relatives. Et voilà pourquoi la réalité face à cette fausse accusation contre la CNRCT est toute simple. À sa casson, lors des obsèques de Sa Majesté Nana Kwaku Anoubouli III, roi de Baoulé, le monde entier a appris par la voix du conseil du royaume Baoulé que le peuple Baoulé a une nouvelle reine. Sur cette base, la reine Ngatano Monique sera nommée membre du directoire de la CNRCT par décret jusqu'en 2023 avec tous les autres membres du directoire de la CNRCT.
À l'instant, le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nanan Amantanou et Paul Désiré. Hors de la Côte d'Ivoire, 69 personnes, des membres du groupe djihadiste Boko Haram et leurs familles se sont rendus depuis début juillet à la force multinationale mixte FMM au Cameroun et au Niger, a annoncé ce mardi cette force composée de plusieurs armées africaines. Il s'agit de 14 hommes, 23 femmes et 32 enfants, a détaillé le lieutenant-colonel Aboubakar Abdullahi, porte-parole de l'information militaire de la FMM, joint par téléphone. Les épouses sont considérées comme des terroristes puisqu'elles sont utilisées pour des attaques suicides, a-t-il souligné. Et du football pour terminer ce journal Euro 2024. Dans quelques minutes, plus exactement à 19h temps universel, la première demi-finale de la compétition opposera la France à l'Espagne. Une rencontre au sommet dans le dernier carré pour ces deux sélections qui se rencontrent pour la 6e fois lors d'un tournoi majeur. Aussi, demain à la même heure, les Pays-Bas seront aux prises avec l'Angleterre pour une place en finale de l'Euro. En attendant ces matchs, passons au rappel des titres de ce journal. Le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué les progrès de la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'énergie et du développement humain. C'était lors d'une audience que lui a accordé le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis hors de nos frontières, 69 membres du groupe djihadiste Boko Haram se sont rendus à la force multinationale mixte, FMM, au Cameroun et au Niger, selon un communiqué. Merci d'avoir suivi ce journal et de rester sur Radio de la Paix. Tout de suite, mon droit au quotidien avec Aoussi Pouta.
Mon droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation.